Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans PLC Média, nous accueillons Axel Cimitera, chargé de prévention du CIDFF Haute-Loire, et Anne-Marie Sabatier, bénévole pour l'association, pour une nouvelle interview.
Donc, bonjour à vous. Dans un premier temps, même si votre association elle est assez connue du public, pouviez-vous nous faire une rapide présentation de votre association et qui la constitue ?
Donc le CIDFF, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, c'est une association ici en Haute-Loire qui a une vocation départementale, mais on fait partie d'un réseau d'associations qui sont présentes à peu près dans tous les départements français et on est affilié à une fédération nationale. Chaque CIDFF va déployer certaines missions sur le territoire. La première mission, c'est une mission d'information juridique gratuite et confidentielle à toute personne qui souhaite avoir en savoir plus sur ses droits. Donc ça peut être le droit de la famille, le droit du séjour en France, etc. etc. Par exemple, je souhaite divorcer. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, combien de temps ça peut prendre, quels papiers il faut remplir, que deviennent mes enfants là-dedans, etc. Donc là, le CIDFF peut donner une information gratuite à l'aide de ses juristes. On a une deuxième action qui est en destination des victimes de violences qui peuvent venir nous voir pour recevoir un accompagnement. Donc c'est un accompagnement qui va être juridique d'une part. Donc on va expliquer aux personnes, aux victimes, quels sont leurs droits, mais aussi on va les accompagner tout au long de la procédure pénale s'il y en a une. Donc ça peut être par exemple, j'ai reçu un courrier que je ne comprends pas du tribunal, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu Et puis comme ça, la personne a toutes les cartes en main pour faire exercer ses droits de la façon dont elle l'entend. Il y a aussi un accompagnement psychologique des victimes de violences. Donc on a une psychologue et deux juristes, bientôt trois, ainsi qu'une stagiaire juriste, une stagiaire avocate sur ces questions. On a également une action plutôt tournée vers l'emploi des femmes. Alors autant l'accompagnement, les accompagnements dont je vous ai parlé avant, ça peut être hommes et femmes, mais sur la question de l'emploi spécifiquement, on va accompagner les femmes à s'insérer socialement, à s'insérer dans l'emploi. Ça, c'est pour favoriser leur autonomie. On a une action aussi en direction des quartiers prioritaires de la ville pour faire connaître nos services. Et enfin, une action de prévention. Donc ça, l'idée, c'est d'amener dans différents pans de la société. Ça peut être scolaire, mais ça peut être aussi hors scolaire, tourné vers le grand public. On a une action qui va consister à faire réfléchir aux questions de violence, faire réfléchir aux questions d'égalité femmes-hommes et amener de l'information aussi sur les droits au grand public.
Au niveau de la structure, j'ajouterais simplement qu'on fait partie, nous avons donc une fédération régionale et une fédération nationale.
D'accord, merci beaucoup. Et donc, quels sont les objectifs principaux du CIDFF et comment contribue-t-il à promouvoir les droits des femmes et des familles ?
Ils ont été évoqués déjà par rapport à l'organisation du CIDF. Hein. Nous avons, c'est permettre aux femmes de connaître et d'accéder à leurs droits. C'est aussi travailler sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Ensuite, nous avons la lutte contre les violences faites aux femmes. Domaine, c'est la prévention, hein, qui se fait donc par des interventions qui ont lieu dans les établissements scolaires, primaires, collèges, et puis d'autres établissements aussi. Hein. Axel peut en parler là.
Et donc, vous en parliez un peu avant, vous intervenez dans le cadre des lycées, mais est-ce que vous proposez d'autres alternatives en dehors de ce cadre scolaire ?
Tout à fait. Alors effectivement, on intervient, je rentre quand même sur la partie scolaire, parce qu'on intervient effectivement beaucoup dans les établissements scolaires. Il faut savoir que les établissements scolaires sont soumis par la loi à une obligation d'avoir chaque année 3 séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors une partie des interventions qu'on fait se situe dans ce cadre-là. Par exemple, à l'instant, là, j'étais avec une classe de seconde et on parlait de consentement. Donc là, on est en plein dans la question. Donc ça, c'est le cadre scolaire. En théorie, chaque personne a 3 séances par an. Alors ça peut être avec nous, avec l'infirmier ou l'infirmière scolaire s'il y en a. Voilà, prévention, maladie sexuellement transmissible. Ça peut être avec d'autres associations. En tout cas, nous, on intervient dans ce cadre-là, dans le cadre scolaire. On intervient aussi hors cadre scolaire, alors avec des jeunes parfois, donc ça peut être à la prévention judiciaire de la jeunesse, en point info jeunesse, en mission locale, toute autre structure qui souhaite faire appel à nous. Mais ça peut être aussi tourné vers le grand public à l'aide de manifestations qu'on organise. Alors là, il y a 2 semaines, c'était le 25 novembre, la journée d'élimination des violences faites aux femmes. On a eu tout un tas d'actions, je ne sais pas si tu m'en parlais d'ailleurs Anne-Marie, qui était tournée vers le grand public pour faire de la prévention sur la question des violences.
Alors, notamment en ce qui concerne donc l'intervention des bénévoles, c'est souvent pour l'organisation de ces manifestations, celle du 8 mars, et qui est la journée des droits des femmes. Et puis, le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Alors, à l'occasion de ces deux journées, nous organisons des actions dont le but est d'interpeller le public. Alors, ces interventions, elles se font généralement donc en ville, sur les places. Et puis, nous organisons aussi, il peut y avoir une projection de films, des pièces de théâtre portant sur le thème donc des violences, ou des expositions.
Cette année, pour le 25 novembre, on a également réalisé au sol, alors il y en a eu dans votre établissement scolaire, dans plein d'autres établissements scolaires du département et dans la rue, on a dessiné au sol des cycles des violences, donc pour permettre à chacun de comprendre les mécanismes d'emprise au sein du couple. En dehors de ces manifestations publiques, on a aussi d'autres structures qui peuvent faire appel à nous, par exemple des structures professionnelles. Récemment, là, on a eu un groupe d'architectes qui souhaitaient se former sur les questions de violence sexiste au travail. Donc on a répondu à cette demande, parce qu'elle rentre dans le cadre de nos missions. Alors ça prend la forme d'intervention, donc soit avec moi, qui est plutôt une formation liée à la sociologie. Ça peut être aussi des formations assurées par mes collègues juristes ou ma collègue psychologue. Ça, on en fait régulièrement. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est cadre intervention formation, et on est aussi en train de mettre en place un centre de ressources donc on appelle l'Egalitech, et donc là l'idée c'est de pouvoir mettre aussi à disposition des ressources, livres, jeux, expositions, albums photos qui vont traiter des thématiques qui sont les nôtres, les violences sexistes, l'égalité femmes-hommes et de multiples déclinaisons de tout ça, et donc de pouvoir outiller des structures qui souhaitent se former sur ces questions et les mettre à jour dans leur structure.
D'accord, merci beaucoup. Et donc en parlant de violences faites aux femmes et de sexisme, est-ce que vous pourriez nous donner un peu une définition assez générale du sexisme et quelle forme, par exemple, il peut prendre?
Tu veux que j'y aille?
Ah bah oui, c'est ton...
Alors, votre question, pardon, c'était le sexisme et les violences faites aux femmes, c'est ça? Ouais. Alors, le sexisme, ça ne va pas toucher que les femmes. Le sexisme, c'est le fait d'avoir un comportement différencié en fonction du sexe ou du genre de la personne qu'on a en face de nous. Donc, ça touche les femmes, mais ça touche aussi les hommes, le sexisme. Un comportement sexiste classique pour chacun, chacune. Ça va être par exemple le petit garçon à qui on va demander de ne pas pleurer, parce que c'est un garçon, et pour être un garçon, il ne faut pas pleurer. Or, on sait bien que les garçons ont tout le spectre des émotions possibles, tout comme les femmes, donc ils peuvent pleurer, ils peuvent être en colère, etc. Un classique du sexisme qu'on peut entendre sur les femmes, c'est sur des rôles qu'il faudrait avoir, donc rester à la maison, etc. etc. Donc là, on crée une différence entre hommes et femmes, qui est en fait qui repose sur une différence... biologique, en gros organes reproducteurs, génome, et on va plaquer des comportements là-dessus qui vont formater les individus et donc leur ôter de la liberté d'être qui ils et elles veulent. C'était ça votre question, du coup, ouais.
Et donc, vous concernant, Madame Sabatier, en tant que militante active, quelles formes différentes peuvent prendre le militantisme ?
Alors, en tant que bénévole et militante au CIDF, on a deux volets donc, de participation, c'est-à-dire qu'on est au CIDF parce qu'on est pour l'égalité homme-femme. Hein, c'est un des aspects, donc, c'est ce qui fait partie de notre demande hein, et de notre cause à défendre. Et puis, contre les violences faites aux femmes. Alors, au CIDF, les bénévoles, il y a un volet de gouvernance hein, qui est assuré par le bureau. Et puis, des actions militantes pour, on les a déjà présentées tout à l'heure, hein, surtout deux points forts, le 8 mars et le 25 novembre, pour interpeller donc le public sur ces thématiques et sur ces problèmes, ce non-respect des droits.
D'accord. Et même si cela, pour certains, peut sembler assez évident, quels sont les droits fondamentaux des femmes et des familles que les jeunes devraient connaître et défendre ?
Alors, par rapport aux droits des femmes, tout d'abord, c'est l'égalité. Les femmes, elles ont le droit, par exemple, d'avoir un travail rémunéré, de choisir le travail, le métier qu'elles veulent réaliser. Et elles ont le droit, on peut se demander pourquoi on se pose la question d'avoir le même salaire à qualification professionnelle égale, à temps de travail équivalent. Les femmes ont le droit d'avoir le même salaire que les hommes. Alors que dans on sait qu'aujourd'hui, en 2023, une femme perçoit 21% de moins de revenus qu'un homme. Alors, il y a une question hein, à se poser. C'est aussi les postes à responsabilité, même s'il y a aujourd'hui des progrès qui ont été réalisés. Dans les postes à responsabilité, dans les entreprises, vous avez encore une majorité d'hommes. Ensuite, alors ça c'est le droit au travail, hein, à travail égal, salaire égal. Mais c'est aussi dans la famille. C'est pas si ancien que ça. Les femmes, avant 1965, n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire et ne pouvaient pas travailler sans l'assentiment de leur mari. Partage des tâches aussi au sein de la famille, partage des responsabilités par rapport aux enfants. Autre droit, c'est le droit d'être respecté. C'est-à-dire, comment peut-on comprendre qu'un mari ou un compagnon batte sa femme jusqu'à la mort ? En 2022, il y a eu encore 147 victimes de féminicides en France. Il y en a d'autres aussi, mais je...
Oui, bah, je dirais que ouais, aussi les droits des femmes, en fait, c'est les droits humains.
Oui, c'est ça.
En fait, militer pour les droits des femmes, être dans une association féministe, c'est tout simplement revendiquer l'égalité pour toutes et tous. Et donc, ça se joue sur le volet économique, sur le volet politique... qui nous représente dans le monde politique. Ça peut être dans le domaine médiatique. Est-ce que les femmes ont autant la parole que les hommes ? Est-ce qu'elles peuvent s'exprimer sur les mêmes sujets ? Voilà. C'est aussi des questions liées à l'intégrité. Qui est victime de violence ? Quelle forme de violence spécifique vont toucher les femmes ? Donc en fait, quand on milite pour les droits humains, on ne peut qu'être féministe, je dirais.
Merci beaucoup. Et donc, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent s'engager dans la défense des droits des femmes et des familles ?
Alors, un conseil, eh bien, c'est militer dans les associations auxquelles ils peuvent accéder, quoi. Et puis, regarder un peu ce qui se passe autour d'eux et se permettent peut-être des fois de faire part de leurs désaccords.
Effectivement, donc nous on est une association, il y a plein d'associations qui défendent les droits humains, qui défendent les droits des femmes. Il y a forcément une manière de militer qui vous correspond si c'est un sujet sur lequel vous souhaitez vous engager. Voilà, et puis il y a plein de thématiques, on peut aller faire des collages, on peut aller au planning familial, on peut aller au CIDFF. On peut organiser de la récolte de fonds. Enfin, en fait, il y a plein de choses à faire. Peut être aussi, donc ça, c'est tout ce qui est militantisme organisé et associatif. Mais il y a aussi toute une part qui est se changer soi-même et faire en sorte de cultiver autour de soi des relations saines, respectueuses, dégagées de tout stéréotype, se poser des questions sur où on en est des stéréotypes, etc., etc.
Et donc, concernant le militantisme que vous avez évoqué, quelles difficultés rencontre le militantisme concernant la défense contre le sexisme et les violences faites aux femmes ?
Les difficultés ? Eh bien, les difficultés, la principale des difficultés, c'est de se faire entendre et écouter, parce qu'on peut parler, c'est ça, c'est la difficulté à se faire entendre.
Je dirais qu'il y a aussi un enjeu à lutter contre beaucoup de désinformation. Les droits des femmes et des minorités de genre, donc LGBTQI+, ont beaucoup progressé ces dernières années, et ça, nous, on s'en félicite, et c'est des combats qu'on mène. En revanche, on voit aussi qu'il y a un phénomène, alors qui n'est pas que en France, hein, qui est mondial, de structuration d'une réponse à ces progrès. Il y a un rapport, par exemple, de la Fondation des femmes qui est paru récemment, qui tourne autour de ce qu'on appelle le backlash. Et donc, on voit que des groupes s'organisent aussi pour remettre en question les conquêtes des femmes, des minorités de genre, des minorités sexuelles. Et donc, qui vont avoir leur propre agenda de changement, mais qui vont aussi diffuser de la contre-information, des fausses informations. En ce qui me concerne, par exemple, sur le volet des interventions scolaires, nous, on intervient dans le cadre de la loi. C'est hyper défini, hyper encadré, ce qu'on fait. Il y a énormément de désinformations qui circulent à ces propos. On peut regarder ce qui s'est passé en Belgique récemment, par exemple, où là, on a carrément des groupes qui sont allés attaquer des écoles, en fait, sur la base de propos de désinformation.
Pardon. Ouais. Non, je voulais simplement rebondir sur ce que vient de dire Axel, c'est-à-dire que les droits ne sont jamais acquis définitivement. Et on voit ce qui se passe, par exemple, la loi sur l'avortement dans certains pays, aux États-Unis. Il faut rester très vigilant.
C'est ce que Simone de Beauvoir, en fait, elle disait, il suffit d'une crise économique, politique, pour que le droit des femmes, en fait, soit remis en question. Donc c'est vrai que l'égalité n'est jamais totalement acquise.
Oui, c'est ça.
Et c'est pour ça que c'est important de militer.
Et donc, pour vous deux, qu'est-ce qui vous a donné personnellement envie de vous engager au sein de cette association ?
Alors, en ce qui me concerne, j'ai toujours fait du bénévolat dans des associations diverses. Notamment, j'ai fait beaucoup d'alphabétisation. Et je suis allée au CIDF parce que j'ai jamais compris pourquoi les droits humains m'intéressent énormément. Enfin, ça fait partie de... Ça donne du sens à la vie. Enfin, à la mienne, en tout cas. La défense des droits humains. Et je suis rentrée au CIDF parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé du CIDF. Et ça m'a donc permis de mettre un pied dans l'association. Et ça correspond tout à fait donc aux causes qui me tiennent à cœur. Et puis je pourrais dire que aussi, être bénévole dans une association, ça a des côtés positifs, hein, parce que ça permet d'élargir ses connaissances, de rencontrer des personnes qui sont différentes, qu'on n'aurait jamais rencontrées dans un autre lieu. Et puis c'est un partage, un lien qui se tisse. Et puis, c'est aussi c'est valorisant pour le bénévole aussi, quoi.
Et donc pour terminer, est-ce que le CIDFF travaille en collaboration avec d'autres associations ?
Alors je vais vous donner des... Oui, bien sûr, on travaille avec Justice et Partage, mais on travaille aussi en tant que bénévole. Là, nous avons le 17 février le collectif, d'accueil des migrants à Saint-Julien-Chapteuil qui organise une journée, une demi-journée pour les droits humains. Ils ont donc convoqué plusieurs associations comme ATD Carmonde, Dis-moi, Habitat Humanisme, le CIDF, pour faire une table ronde et puis échanger donc par rapport à la situation. Et je voudrais profiter de l'occasion et du contexte. Le 10 décembre, c'est la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été votée donc à l'ONU en 1948. Et dans les articles de cette déclaration, vous avez tous les humains naissent libres et égaux en dignité, en droit, quelle que soit la race, la couleur, le sexe, les opinions politiques, religieuses, la nationalité, l'origine sociale.
Et je dirais que sur la question du partenariat, en tout cas, on ne fait que ça, entre guillemets. Que ce soit pour faire des interventions, en fait, on a besoin d'être toujours en partenariat avec des structures qui nous font venir et qui nous font confiance. Pour fonctionner, on ne vend pas ou peu de choses. On a besoin d'être soutenu par des institutions publiques ou d'autres groupes qui souhaitent nous soutenir. Donc là aussi, on a du partenariat. On est en étroit partenariat avec différentes institutions publiques, notamment dans la question des violences. On est en partenariat avec la police et la gendarmerie, avec qui on a des contacts rapprochés, avec les institutions judiciaires, avec les institutions de protection des victimes. Donc l'action qu'on mène, on ne pourrait pas la mener si on était tout seul et isolé.
La santé aussi, avec le centre hospitalier d'Émile Roux.
Merci à vous deux pour cette interview. Et peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez nous transmettre certaines adresses sur Internet, sur les réseaux, sur lesquels on pourrait vous joindre ou vous suivre en tout cas ?
Je n'ai pas de mire. Pardon.
Vous pouvez... on a un site Internet. Je ne pourrais pas vous le donner de tête.
Mais moi, je dois l'avoir.
C'est ça, voilà. Alors, honnêtement, c'est pas le site le plus à jour au monde. Par contre, notre fédération nationale a un site qui est bien plus à jour. Ça va pas forcément relayer les actualités locales, mais ça va vous permettre de comprendre ce que fait un CIDFF. Et après, sur les réseaux, on est présent également sur Facebook et sur Instagram.
D'accord.
Alors, voilà pour le CIDF de Haute-Loire. Puis c'est vrai que Fédération nationale.
Ok, donc on peut vous retrouver soit par via votre numéro de téléphone qu'on mettra sur le site PLC Média, ainsi que votre adresse mail et tout ce qui est site internet, réseaux sociaux, etc. Donc merci beaucoup pour cet échange.
Merci
à vous.
Merci à vous.